au bras. Vous voyez qu'une femme qui a eu une mammectomie, ça veut dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, ça veut dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles. Il peut arriver que le bras commence à enfler et ce gros bras-là peut être très très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la paroi thoracique. En fait, c'est une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça finit par régresser avec le temps.
Oui, il y a aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein. Est-ce que ces cheveux vont repousser?
Oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux. Ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les casques réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de casque réfrigérant, on observe que la plupart des dames qui prennent les médicaments qu'on appelle des anticyclines finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames. Ce n'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça ne va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
Alphonse Mouaki, depuis la RDC, s'inquiète du coût des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement?
Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons d'énormes problèmes de prise en charge. Donc, ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants qui est maintenant chef de service là-bas à Bamako, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite, la radiothérapie est gratuite, mais ça, c'est pour les Maliens.
Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements?
Au Congo-Brazzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Mais il m'arrive d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents. Faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service, on leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, ça veut dire que vous ne pouvez même plus accéder au bilan, parce que le bilan, ce sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement? Donc les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit? Et c'est pas l'hôpital qui nourrit, c'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui essaient de trouver un peu d'argent pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ces malades-là. Donc, pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments.
Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou les ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer?
L'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc il y a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas des médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants, mais qu'on peut utiliser dans un cas bien précis. Donc, pour me résumer, le traitement est payant. Il n'est pas seulement payant pour les malades en cancérologie, il est également payant pour les malades qui sont en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez aussi des cancers hématologiques. Les lymphomes sont gérés par nos amis hématologues.
Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse?
Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque où dès que vous étiez porteur d'un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein?
Et les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir 7 cancers sur 10 avec l'intelligence artificielle qui est en train de faire ses grands pas avec l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein ne se traite plus de la même façon. Si nous sommes venus avoir un cancer du sein, selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas traité de la même façon. Donc, non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal soit qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le 10e cancer va basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très, très peu du cancer.
Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation de ce sein, mais d'autres pas?
Tout dépend du stade de la maladie. L'ablation, c'est comme la chirurgie. Donc, il y a des indications précises pour faire l'ablation du sein. Si vous avez un nodule beaucoup plus gros dans votre sein et qui ne répond pas à une chirurgie minimaliste comme une tumorectomie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bon, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus de curage schématiquement. Mais nous, comme on n'a pas cette technique à Brazzaville, quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les selles.
Oumarou Zada Massaoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais elle a posé cette question.
Je ne vais pas ostraciser les tradithérapeutes, bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon l'angle culturel ou l'angle anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là, parce que chez nous en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier, et le sorcier le plus souvent c'est l'angle que je suis, c'est le papa pas que je suis. Et on va voir ces traduits thérapeutes-là. Moi, je n'ai pas vu un traduit thérapeute guérir une âme d'un cancer du sein. Et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas. Il ne faut pas fermer la porte.
Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer de sein peut s'estimer être guérie?
Oh, mais disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus de signes, vous êtes en rémission complète, vous pouvez estimer que vous êtes guéri.
En parlant de récidive, Guillaume Omonga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Donc, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous avez traité le cancer du sein, que vos cellules rentrent en phase caissante, comme on le dit, donc ils ne bougent plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après 10 ans. Et oui, le cancer revient, malheureusement.
Et c'est au cas par cas, mais ce n'est pas chez toutes les femmes.
Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir du cancer du sein. Mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Les cancers du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein?
La femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr, il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein?
Au niveau de Brazzaville, il commence à avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, ou bien des femmes qui ont été guéries du cancer du sein. Donc, il y a un soutien. Je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça. Donc, on les tient psychologiquement. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement. Et c'est bien que des dames qui ont été guéries d'un cancer du sein se montrent à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein, qui sont en traitement, pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et aller vers le traitement.
Est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein?
À l'époque, on se fondait même sur la pilule, parce qu'on prenait la pilule, vous prenez, ce sont des hormones que vous prenez. On pensait que la pilule pouvait induire un cancer du sein. Cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il faut rester tranquille, il faut s'observer.
Il y en a qui veulent savoir si à la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas?
Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de voir un cancer est élevée. Donc, on a tendance à faire un cancer quand on est ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin pas encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
Léo-Émile Kankonde, depuis le Kassai Central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on appelle cancer du sein.
Ah non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des affections extrêmement complexe. C'est-à-dire que la manière dont naît un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent. Mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80 ne sont pas les traitements du 21e siècle. On a beaucoup progressé dans les traitements. D'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on ne peut pas dire que le travail ne se fait pas. Non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il a un stade très avancé, devenir une maladie chronique et qu'on n'en meurt plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants.
Quelles innovations pourrait-il y avoir?
Chacun aura son traitement. Si vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit pendant l'émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous aurons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements innovants.
Alors professeur, il y a Alfred de Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. L'allaitement est un facteur protecteur. Parce que quand vous allaitez, ça veut dire que vous avez amené votre sein à maturation. C'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore sous-peuplée. On a besoin d'enfants.
Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein?
Ah oui, bien sûr. Il faut encourager nos femmes, nos soeurs, nos enfants à faire des des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à un discours, à la limite, un peu condescendant qu'on a entendu, où on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On entendait un discours comme ça, je ne pourrais pas citer le nom de ce président-là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir ses enfants. Et il en faut, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler?
La première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis, à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage, qu'on fasse une mammographie, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse pour dire que comme je n'ai pas mal, je peux aller voir mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon qui s'incurve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit « je vous enlever la boule comme ça », refusez ça. On dit « non, 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 est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe ?» C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
Merci beaucoup encore de votre disponibilité.
Oh madame, c'est moi qui vous remercie.
De suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie-Ngouabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la technologie d'assistance joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde, mais beaucoup n'y ont pas accès. On en parle. Pascal Bijlevel, PDG d'Atskel, explique les efforts mondiaux pour accroître l'accessibilité. Et nous aurons des conseils essentiels pour l'entretien de vos lunettes afin de les garder en bon état. La campagne de vaccination contre la fièvre jaune en Ouganda rencontre des obstacles. Enfin, un taux élevé de tabagisme chez les hommes en Indonésie préoccupe les autorités sanitaires. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. D'une simple paire de lunettes à un tensiomètre et un fauteuil roulant, la technologie d'assistance fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes dans le monde. La technologie d'assistance désigne les aides techniques et les systèmes et services qui leur sont associés et permettent aux personnes qui les utilisent de fonctionner chaque jour avec plus d'autonomie. Selon l'OMS, 2,5 milliards de personnes ont besoin d'au moins une forme de technologie d'assistance aujourd'hui. En Afrique, 10 à 20% de la population est confrontée à des défis liés au handicap. Les infrastructures limitées et les coûts élevés des technologies d'assistance rendent leur accès impossible pour une tranche de la population. Une organisation à but non lucratif vise à faire la différence. Suivez ce reportage de Mohamed Youssouf, récit Blanche Sanou.
Edwin Omulama fait partie des millions de personnes en situation de handicap en Afrique. Il est ici aujourd'hui pour découvrir comment la technologie peut l'aider à se déplacer sans l'aide de quelqu'un ou de sa canne. Un dispositif attaché à ses pieds peut empêcher les collisions, le protégeant ainsi des blessures.
Beaucoup de gens sont capables de nous identifier grâce à l'utilisation de cannes, mais avec la caméra, les gens ne pourront pas nous différencier. Ils penseront que nous sommes normaux. Nous fonctionnerons comme des personnes normales. Et je crois que cela nous aidera à être plus indépendants lorsqu'il s'agit de marcher et d'identifier des objets.
Lors de la conférence Inclusive Africa, au moins 20 innovateurs ont présenté des technologies conçues pour améliorer l'indépendance des personnes handicapées. Selon les Nations Unies, plus de 80 millions de personnes en Afrique vivent avec un handicap. D'ici 2050, 3,5 milliards de personnes dans le monde auront besoin de technologies d'assistance. Les appareils présentés ici sont conçus pour répondre au handicap, depuis l'aide à la communication pour les personnes souffrant de déficience verbale et visuelle jusqu'à la facilitation des mouvements. Faustina Urassa de Tanzanie dit que se faire aider à monter dans un véhicule peut être très bouleversant.
Il y a des moments où quelqu'un vous touche d'une manière qui vous met mal à l'aise. mais avec ce mode de transport, cela contribue à préserver notre dignité. Je suis soulagée de ne plus avoir à être portée et touchée. Désormais, je peux monter dans le véhicule avec respect et m'asseoir confortablement. Cela m'apporte une immense joie.
L'accès aux technologies d'assistance est faible en Afrique et est imputé à la pauvreté, à l'environnement, au manque de connaissances et au manque de services de soutien et de prestataires de services. Les organisateurs et les participants à la conférence organisée à Nairobi ont discuté des défis auxquels ils sont confrontés en tant que personnes handicapées, comme le coût et les opportunités en matière de technologies d'assistance.
Nous voulons également débloquer l'écosystème informatique africain et aider les pays et les innovateurs africains à développer des politiques et des structures de financement qui peuvent aider l'innovation à prospérer en Afrique. Nous voulons également donner aux jeunes handicapés les bonnes informations, outils et opportunités pour devenir champions de l'accessibilité numérique à travers le continent.
Alors que la conférence se termine, les personnes en situation de handicap et leurs défenseurs espèrent que leurs voix seront entendues et soutenues par des outils leur permettant d'améliorer leur vie.
Selon les experts, seuls 10% des personnes dans les pays à faible revenu ont accès aux technologies d'assistance dont elles ont besoin, contre 90% dans les pays à revenus élevés. Le 4 juin a marqué la première journée mondiale de sensibilisation à la technologie d'assistance. Pascal Bijlevel, PDG d'Atskel, le partenariat mondial pour les technologies d'assistance, nous en dit plus.
Je pense que ce qui est important, c'est que c'est la première fois et c'est un grand pas pour ce mouvement mondial qui essaie de sensibiliser et de faire comprendre la nécessité des technologies d'assistance. Les technologies d'assistance, ce sont les lunettes, les appareils auditifs, les fauteuils roulants, les prothèses, les appareils numériques, tout ce dont une personne a besoin pour être fonctionnelle et s'intégrer pleinement dans la société. Et c'est une question qui a été négligée. L'idée est donc de consacrer un moment à cette question chaque année. C'est la première fois, mais il y en aura beaucoup d'autres pour vraiment mettre en lumière cette question, mobiliser les voix politiques, mobiliser la société civile, mobiliser les individus autour de cette question et faire passer le message sur le besoin de durabilité et l'énorme inégalité qui existe encore aujourd'hui et l'accès à la technologie d'assistance concerne tout le monde. Mais si vous pensez à l'évolution démographique, vous savez, la population croissante des personnes âgées, elles auront toutes besoin de technologies d'assistance en vieillissant, d'une aide auditive, d'un fauteuil roulant ou des lunettes de lecture, ainsi de suite. Mais nous parlons aussi des enfants qui ont besoin de simples lunettes ou d'un appareil auditif pour pouvoir participer en classe. Dans les pays avec lesquels nous travaillons, beaucoup de ces dispositifs sont hors de portée des individus et malheureusement, très peu de gouvernements fournissent des technologies d'assistance dans le cadre de l'assurance maladie de base ou de la protection sociale. Il y a aussi des facteurs plus fondamentaux, comme le manque de ressources humaines. Dans certains pays africains, il n'y a qu'un ou deux audiologistes pour tout le pays. La pose d'un appareil auditif requiert un certain niveau d'expertise pour s'assurer que c'est le bon, qu'il est adapté, qu'il est ajusté, ainsi de suite. En tant qu'individu, la chose la plus importante que l'on puisse faire est d'en parler, de faire passer le message autour de cette question et, dans la mesure du possible, de s'organiser pour exiger de meilleurs services et un meilleur accès. Je pense qu'il y a aussi des choses très simples que l'on peut faire pour commencer à surmonter. Il s'agit de lutter contre la stigmatisation qui est associée à tant de gens qui croient que, vous savez, le port de lunettes peut aggraver l'état de vos yeux. Les gens sont gênés de porter un appareil auditif pour ce genre de choses. Et cela se passe vraiment au niveau de la communauté et des individus. Et il est possible d'apporter ces changements.
Les lunettes de vue sont un investissement important pour la vision et le bien-être. Un bon entretien garantit qu'elles restent efficaces et durent plus longtemps. Voici quelques étapes recommandées par les experts pour entretenir vos lunettes. Utilisez toujours les deux mains pour mettre ou enlever vos lunettes. Cela empêche de les déformer. Nettoyez vos verres avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour lunettes. N'utilisez pas de produits ménagers, de nettoyants pour vitres ou d'autres produits chimiques agressifs sur vos verres car ils peuvent les endommager. Rincez vos lunettes sous un peu d'eau tiède avant de les essuyer pour éviter de les égratigner. Lorsque vous ne portez pas vos lunettes, rangez-les dans un étui à lunettes pour les protéger. Évitez de porter vos lunettes au-dessus de la tête, ce qui peut les déformer. L'Ouganda a lancé en avril une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune, une maladie transmise par les moustiques. Les autorités sanitaires espèrent atteindre des millions de personnes, mais des centaines de doses ne sont pas utilisées, une conséquence de l'hésitation vaccinale. Le récit de Rosine Munezero.
Il s'agissait de la deuxième phase de la campagne qui devait se dérouler entre le 2 et le 8 avril, mais qui a été prolongée d'une semaine en raison du faible taux de participation. Selon l'OMS, 27 pays d'Afrique, dont l'Ouganda, ont été classés comme présentant un risque élevé de fièvre jaune. 90% des cas signalés dans le monde étant sur le continent.
Comme vous le savez, l'Ouganda est l'un de 27 pays qui sont encore considérés comme des pays à haut risque dans le monde, ce qui signifie qu'il y a un risque élevé de contracter la fièvre jaune dans le pays. Donc c'est pourquoi lorsque vous voyagez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, nous sommes tenus d'avoir une preuve de vaccination.
Le docteur Baganizi affirme qu'il y a un risque élevé de contracter la fièvre jaune dans le pays, vu la façon dont la maladie est transmise.
La fièvre jaune est une maladie virale causée par un virus, le virus de la fièvre jaune, qui est propagé par un moustique, un type de moustique appelé AIDS, et qui affecte les êtres humains. Mais il y a un moyen, les animaux, les singes, qui sont un moyen de transmission du virus.
James Audit, infirmier, pense que la réticence des gens à se faire vacciner est due au fait que la maladie n'est pas aussi connue que d'autres, comme le paludisme, et que les gens n'ont pas eu confiance au vaccin que le gouvernement était en train de distribuer.
Ils se demandaient pourquoi le gouvernement lançait une campagne contre la fièvre jaune, car ils avaient l'impression que le gouvernement voulait leur donner des vaccins périmés.
Bien qu'il soit conseiller municipal et qu'il participe à l'élaboration des lois locales à Kampala, Moshe Sandi est farouchement opposé au programme de vaccination.
Nous sommes censés renforcer l'immunité et non introduire des produits chimiques dans leur corps. Quand il s'agit d'enfants, c'est pourquoi j'ai personnellement appelé l'école où va mon fils. Je leur ai dit que je ne voulais pas entendre parler de vaccination de masse.
Baganizi sait qu'il a du pain sur la planche pour convaincre un public sceptique de se faire vacciner, mais il n'abandonne pas son combat contre le virus mortel.
Le 31 mai était la journée mondiale sans tabac, une journée où de nombreux groupes de défense de la santé ont sensibilisé au danger du tabac. Ces groupes avaient des raisons de se réjouir. Dans la plupart des pays, la consommation de tabac est en baisse, mais pas en Indonésie. Reportage Dave Grunebaum avec le récit de Thierry Kaoré.
Otip travaille avec son orthophoniste. Il a fumé pendant près de 40 ans avant que les médecins ne lui enlèvent le larynx à cause d'un cancer.
À mon époque, fumer était considéré comme une tradition et une activité décontractée pour les jeunes. Les gens disaient, si vous ne fumiez pas, vous n'étiez pas assez viril.
Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2022, 70% des hommes indonésiens fumaient du tabac, soit l'un des taux les plus élevés au monde, contre seulement 2% des femmes indonésiennes. Un rapport du ministère indonésien de la Santé indique que les coûts de santé liés au tabagisme sont trois fois plus élevés que le montant généré par les taxes sur le tabac. Otib explique à des groupes de jeunes les difficultés qu'ils rencontrent après des décennies de tabagisme.
Je dois respirer par un trou dans mon cou. Mon nez ne fonctionne pas et j'ai perdu du poids.
Il espère que partager son expérience empêchera certaines personnes d'essayer la cigarette et incitera les fumeurs actuels à abandonner cette pratique.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kwambon pour discuter des chances de guérison de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme dans cette deuxième partie consacrée au cancer du sein féminin. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Ngouabi en République du Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Vasco Valarich. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas